J'ai toujours vécu en Normandie. Né à Louviers, j'ai passé les 10 premières années de ma vie au manoir sur Seine, un village en bord de fleuve entouré de champs et d'usines. Le bibliobus, qui passait dans la commune, a été ma première ouverture sur le monde des livres. J'y empruntais des romans de la Bibliothèque Verte et des bandes dessinées qui m'ouvraient un univers différent de celui des Astérix, Tintin et Lucky Luke que tous les enfants de ma génération lisaient. Gottlieb, Druillet, Philémon, Blueberry. J'y découvrais un humour et une poésie décalées et une façon nouvelle de raconter des histoires. Je continue de penser que la bande dessinée dans les années 1970-1980 a été bien plus créative et innovante que la littérature ou le cinéma. Quand j'ai eu 10 ans, nous avons déménagé à quelques kilomètres dans un bourg plus important, Pont de l'Arche, une petite cité médiévale située à une 20aine de kilomètres de Rouen, à la confluence de l'Eure et de la Seine. Comme le manoir et la basse Seine en général, Pont de l'Arche présente la caractéristique d'être à la fois rural et industriel. Des forêts, des monuments chargés d'histoire, et également de grosses entreprises, aciéries, papeteries, qui emploient la population locale. Les habitants étaient donc confrontés à des métiers durs, à la pollution et aux odeurs désagréables, mais je pouvais aussi prendre mon vélo pour aller me balader dans la nature. Dans cette campagne ouvrière, sans revendication identitaire particulière, on passe en quelques pas d'une tour de château à une cheminée d'usine. Cette dualité a certainement influencé ma manière de voir le monde et peut-être aussi mon choix de suivre des études de géographie. Je me passionnais pour les légendes, les récits d'aventures et de mystères historiques, mais tout autant pour la vie quotidienne des travailleurs de la vallée. Des années plus tard, je m'aperçois que mes romans ont tous pour point commun de chercher à sublimer le réel, de faire apparaître l'extraordinaire dans l'ordinaire, de transformer des personnages banals en figures mythologiques. Première lecture. Dans l'euphorie des Trente Glorieuses, des urbanistes ont eu l'idée d'implanter près de chez moi une ville nouvelle, créée de toutes pièces, qui accueillerait l'afflux de main-d'œuvre que l'expansion industrielle de la vallée de la Seine promettait. Dans les années 1970, j'ai vu pousser sous mes yeux le Vaudreuil-Ville Nouvelle, devenu depuis Val-de-Reuil, seule ville nouvelle française non arrimée à une grande métropole, conçue à l'origine pour loger 150 000 personnes. La crise frappa, et ce fut un échec démographique retentissant. Val-de-Reuil n'a jamais compté plus de 13 000 habitants. Restèrent les équipements publics, surdimensionnés pour une ville que l'État essayait de rendre attractive, en particulier une médiathèque, la plus importante du département. Je m'y rendais à vélo. En ce temps où la distraction passait essentiellement par la lecture, la présence de cette grande bibliothèque a eu une importance cruciale. Les livres m'ouvraient sur de nouveaux horizons. La bande dessinée, les romans policiers, la science-fiction. D'autant que l'époque était riche en nouveautés radicales, en littérature, mais aussi en musique et au cinéma, avec la création de codes inédits. C'était la naissance du rock couplée à la nouvelle chanson française à texte. Higelin, Renaud, Souchon, Capdevielle, Couture, Cabrel. En humour, on passait de Fernand Reynaud à Coluche. La bande dessinée adulte s'imposait. Comès, Socal, Loisel. Je reste, par exemple, un fan absolu du travail de Jean Van Hamme, Torgal, 13, Largo Winch, qui est, selon moi, le meilleur scénariste, cinéma et livres confondus, des 50 dernières années. Je suis le produit de cette culture marquée par l'envie de raconter des histoires avec panache, humour, fantaisie et une certaine poésie. Le bibliobus de mon enfance, la médiathèque de mon adolescence, explique mon attachement pour les bibliothèques. Que mes livres soient aujourd'hui parmi les plus empruntés en France me touche presque davantage que les chiffres de vente. À 20 ans, j'ai même tenu bénévolement pendant un an la petite bibliothèque pour tous de Pont de l'Arche, que j'avais elle aussi fréquentée chaque semaine depuis mes 10 ans. Isolé dans ma vallée, j'étais loin d'imaginer que la culture puisse être snob ou une arme d'exclusion. Elle n'était pour moi qu'une porte ouverte sur tous les possibles, et ceux qui entraient dans la bibliothèque, gosses de 10 ans, mères de famille débordées ou grand-mères sérieuses lectrices de 80 ans, partageaient la même passion compulsive de rechercher dans les livres une fenêtre vers des émotions inédites. C'est pourquoi l'inauguration de la médiathèque Michel Bussy à Gournay-en-Bray le 6 janvier 2017 a été un moment si émouvant. Fin 2022, comme un clin d'œil du destin, une nouvelle médiathèque sera inaugurée à Pont de l'Arche. J'en ai posé la première pierre. Elle est bâtie à moins de 100 mètres de ma maison d'enfance. J'ai donc grandi avec la bibliothèque verte, les aventures de l'agent secret Langelot du lieutenant X, les 6 compagnons de Paul-Jacques Bonzon, les Michel de Georges Bayard, les Alice de Caroline Quinn, la collection des contes et légendes blanc et or de Nathan, quelques dizaines de Bob Moran, d'Agatha Christie, de Jules Verne, puis ce seront René Barjavel, Marcel Aimé, Robert Merle, Pierre Magnan, Charles Exbraya, Patrick Covin, Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, découvert à 14 ans, L'écume des jours de Boris Vian, et bien sûr, les Arsène Lupin de Maurice Leblanc, à qui je dois mon premier ouvrage. Je me suis nourri d'auteurs qui savaient me raconter une histoire tout en suscitant en moi une émotion, avec une écriture que je trouvais originale et un humour qui désamorce tout dogmatisme. Je crois que tous ces livres ont également en commun la création d'un univers puissant, très personnel, capable de transcender la réalité. Le Petit Prince de Saint-Exupéry tenait aussi une place à part dans ma bibliothèque personnelle, sans doute parce que son sens profond m'attirait et à la fois m'échappait. Ainsi a germé le code 612 et cette question incongrue. Qui a tué le Petit Prince ? Ces lectures fondatrices ont suscité en moi l'envie de raconter des histoires et m'ont également fait comprendre la puissance de l'écrit, l'importance de la langue. Vocation. J'ai éprouvé très tôt cette envie, d'aussi loin que je me souvienne, dès mes 6 ans. J'en ai un souvenir précis. Durant la demi-heure qu'il me fallait pour aller chercher le lait à la ferme, j'inventais dans ma tête la suite des histoires que je venais de lire, ou de l'épisode des séries de l'époque, Bonanza ou Au nom de la loi. Je me suis ainsi amusé à bâtir de véritables récits d'aventures et de westerns que je structurais par chapitres. Je les retenais pendant plusieurs mois, généralement sans les griffonner sur du papier, puis je les oubliais. Je me souviens seulement d'un trio d'enquêteurs, 2 hommes et une femme, ou l'inverse, et d'une clé précieuse au pouvoir fantastique. J'ai aussi développé le goût des jeux de mots, des calembours, des assonances, des anagrammes que je notais sur un carnet. J'en ai rempli des dizaines, par simple plaisir, tout autant que pour amuser les copains. J'avais 12 ou 13 ans quand j'ai imaginé un 5e évangile truffé de jeux de mots, dont vous trouverez des extraits dans le PDF Compagnon associé à ce livre audio. Je n'ai jamais relu totalement ce 5e évangile, ni mes 2 agendas complets truffés de calembours. À le parcourir aujourd'hui avec vous, je redécouvre la grande naïveté du propos, mais aussi le goût pour le jeu littéraire, pour l'exercice de style, et finalement peut-être la certitude qu'en littérature, la forme doit toujours l'emporter sur le fond. Le désir d'inventer des histoires, allié au goût des mots et à l'humour, a été alimenté par ce que je lisais, romans et bandes dessinées, ce que je voyais au cinéma ou à la télévision, ce que j'écoutais à la radio,